dont on parlera plus loin, mais qui s'entendre comment eu lieu avant ces parchiotes là de Mishkan. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il allait détruire le clan Israël. Et Moshe Rabbeinu est intervenu parce que Hachem lui a dit: je vais détruire le clan Israël et je vais recommencer avec toi. Et Moshe Rabbeinu a objecté en disant que tu as commencé le clan Israël avec trois piliers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et ça ne marche pas, pourtant trois c'est le plus stable possible. Et maintenant tu voudrais commencer avec un seul, ça n'a pas de sens, ça ne tiendra pas. De toute manière, je ne suis pas candidat. Et Moshe Rabbeinu a joué le tout pour le tout. Il a dit: si tu ne pardonnes pas au clan Israël, alors Mochenina, efface-moi, s'il te plaît, de ton livre. C'est-à-dire, efface-moi. Tu peux m'enlever complètement. Alors Hachem a cédé. Et comme Moshe Rabbeinu avait dit, efface-moi, que la parole d'un tzaddik qu'elle se réalise, même s'il l'a mise sous condition, comme celle de Yaakov s'est réalisée, même s'il l'avait mise sous condition et ça a entraîné la mort de Rachel. Ici, ça a entraîné qu'effectivement, Hachem a effacé le nom de Moshe Rabbeinu. Mais pas de toute la Torah. Et d'une paracha, il se trouve que c'est paracha de Tetzaveh. Notre paracha est la paracha dans laquelle le nom de Moshe, pardon, ne figure pas tel quel. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que la paracha, elle commence par Ve'ata Tetzaveh. Et toi, et quant à toi, ordonne. Ordonne et bnei Israël, ou bnei Israël, viikru elecha, et qu'ils prennent pour toi, vers toi, shemen zait zach, katit lamaro, la lotner tamit. Donc c'est un peu le viikru elecha, ça ressemble beaucoup au viikru li, le parashat Trouma. Hachem dit qu'ils prennent pour moi. Et ici, c'est qu'ils prennent pour toi. Très surprenant. Ve'ata tetzaveh. Pourquoi cette tournure-là? Toi, tu vas ordonner. Toi, ordonne. D'ordinaire, quand Hachem veut que Moshe dise quelque chose, il lui dit: tzav et bnei Israël. Ordonne au Bnei Israël. Ve'ata tetzaveh. Quant à toi, c'est comme si Hachem installait Moshe Rabbeinu comme le Metzaveh. Comme si c'était lui-même qui ordonnait. C'est-à-dire là où Moshe demande, enfin, là où Moshe est effacé parce que c'est ce qu'il avait demandé. C'est sûr, bien que la condition ne soit pas remplie, mais il a dit efface-moi. Alors il est effacé de cette paracha, mais il n'a jamais été plus présent que dans ce texte. Ce n'est que son nom qui est effacé. Mais lui en face de lui comme dans un dialogue avec Hachem, comme celui qui va transmettre les mitzvot d'Hachem au clan Israël, lui, il n'a pas du tout été effacé, son nom est effacé. Et donc, du coup, on peut se demander quelle différence y a-t-il? Quand le nom de Moshe est explicite, Alors on sait, c'est toutes les parachiotes. Et si dans celle-ci, le nom de Moshe n'est pas explicite, mais Moshe est tout à fait présent. Donc finalement, ça change quoi que son nom soit effacé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de référence. On va regarder l'index, on ne verra pas Moshe. On ne peut pas. Alors, on sait par ailleurs que le Hata auquel Hachem s'adresse, toi, c'est Moshe. Mais c'est comme si il y avait deux choses. Il y a le Hata et puis il y a le nom. Celui avec lequel on parle est celui qui a un nom, il est nommable. C'est un peu comme dans la Amida, enfin, ou dans les brachot, on dit Baruch Ata, c'est à qui on s'adresse. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser Hachem? Pourquoi est-ce qu'on. Béni sois-tu, Hachem. On sait bien qui est le tu. Et on s'adresse à lui. La tfila, c'est bien une façon de se tenir devant Hachem et de s'adresser à lui. Donc, quand je dis Ata, je sais très bien à qui je m'adresse. Pourquoi est-ce qu'il faut mentionner un nom? Parce que c'est pas une redondance en quelque sorte. Comme si le Hata dans le Baruch Hata, ça pouvait être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Évidemment pas. OK. C'est parce qu'il y a. C'est une façon de. Le nom, comme on dit, Hata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Tu es saint et ton nom est déjà saint. Il y a une kedusha du nom, qui est, on peut dire, inférieure à la kedusha du hata. Ou idbarach. Si vous voulez, il y a une espèce de concession de la part d'Hachem d'avoir un nom, parce que au lieu qu'on s'adresse à lui, idbarach, on s'adresse à son nom. Et après, on descend encore, particularise. Ata, Hachem, Elokeinu. C'est aussi un nom divin. Mais bon, il se rapporte à nous et on parle de Amidatadin, etc. Donc, c'est toujours plus ciblé si on peut parler comme ça. OK, ça c'est pour Hachem. Effacer. Le nom de Moshe, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit, si tu ne pardonnes pas, alors tu peux même effacer mon nom. Il faut effacer son nom. Si Hachem ne pardonne pas, il va devoir construire le clan Israël avec quelqu'un d'autre. Alors Moshe dit, même mon nom, on ne pourra pas l'utiliser, cette affaire. Il n'y a même pas cette référence. Quand on dit son nom, alors on voit toute l'épaisseur du personnage. On dit Ata, c'est la ligne directe, sans que on précise quand le nom raconte une histoire. Là, en l'occurrence, chez Moshe Rabbeinu, raconte son histoire. Alors, en effaçant son nom, c'est aussi une façon d'effacer toute l'histoire qui va avec son nom. Toute cette histoire de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, Le hatha ici, c'est maintenant. Toi, le hatha ne fait pas référence au nom. C'est le hatha qu'il y a maintenant. Maintenant, je parle avec toi. Et toi, c'est le toi de maintenant sans l'épaisseur de toute son histoire, qui elle est dans le nom. Le tu, le toi, qui raconte pas d'histoire. Tu es celui qui est en place ici, maintenant. Et tu es tout entier, en quelque sorte, dans cette opération-là. C'est quoi l'opération en question? L'opération, c'est Vikru Elecha Hashem en Zaitzach, Katit, la Maor, la Alot Ner Tamid. Dans la paracha de Trouma, on a tous les dynimes qui concernent la collecte des matériaux nécessaires au fonctionnement, nécessaires à la construction du Mishkan. Dans notre paracha de Tetzavé, si vous avancez un tout petit peu, quelques psukim. Donc au début du chapitre 28, Ve'ata de nouveau. Et la cantillation, elle met un accent. Ve'ata, très emphatique. Akrev elecha. Et Aaron achicha et banav ito mitoch bnei Israël. Rapproche de toi, Aaron ton frère et ses fils, Aaron et ses fils avec lui, tu les rapproches et tu les fais sortir en quelque sorte du sein des bnei Israël, tu donc. Si on les fait sortir, on va les singulariser. Quelque part, on va leur donner une kedusha supplémentaire. Et pourquoi? Le chanoli. Ils vont me servir, moi. Et le pasuk fait la liste. Aaron et ses quatre fils, Nadab, Avihu, Elazar, Itamar. Donc les Kohanim à cette époque-là, les Kohanim du Mishkan, au début du Mishkan, les Kohanim sont au nombre de 5. Et qu'est-ce qu'on va leur faire? On les extrait du clan Israël. Et va sita bigde kodesh la Aaron achicha chavod ul tiferet. Et tu feras des vêtements saints pour Aaron ton frère, des vêtements qui seront le chavod ou le Tifaret. La gloire, la splendeur. Donc pour l'instant, on ne parle que de Begadim, de vêtements pour le Kohen Gadol, pour Aaron, qui sera Kohen Gadol. Et le Pasuk dit, va à Sita, tu feras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon cher Rabbeinu qui va prendre sa machine à coudre et il va coudre les vêtements pour Aaron. D'accord, chez les Juifs, c'est ailleurs, d'accord, mais c'est ça qu'on dit à mon cher Rabbeinu. Alors, c'est pas tout à fait comme ça parce que, de nouveau, Ve'ata, vous voyez le nombre de Ve'ata. Ve'asita, Ve'ata, le tu n'arrête pas. C'est d'abord El Kol Chachmelev. Tu vas parler à tous les, ceux qui ont la sagesse du cœur. Cher Miletiv Ruach Chochma, que j'ai empli d'un esprit de sagesse. C'est une sagesse ici, la sagesse qui leur permet de fabriquer les vêtements. Donc, ils se mettent à suite, Big De Aaron, le Kacho, le Chanoli. Ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier, pour qu'il me serve. Vele Abgadim, et voici la liste des vêtements qu'on va faire pour lui, il y a 8 vêtements. Le Kohen Gadol a 8 vêtements. Toujours, ces vêtements s'appellent Bigdei Kodesh. Tout à coup, on dit Vasu Bigdei Kodesh le Aaron, Achicha, ou le Banav le Chanoli, et aussi à ses fils. Et quel vêtement? On va faire à ses fils le même vêtement qu'à Aaron? Bien sûr que c'est pas le cas. À ses fils, on va faire les vêtements qui leur correspondent, c'est-à-dire 4 des 8 vêtements sont des vêtements qui existent aussi chez les Kohanim, qui ne sont pas les Kohanim Gdolim. Donc, 4 vêtements pour un Kohen simple, 8 vêtements, c'est-à-dire 4 de plus, en plus des 4 vêtements ordinaires. Le Kohen Gadol, il a 4 vêtements en plus, qui fait 8 vêtements. Alors, il y a la description de ces vêtements. Alors, avec tous les ornements, tous les bijoux qui vont avec, tous ces vêtements. Et dans les vêtements, il va y avoir à certains endroits, il va y avoir des pierres précieuses. Alors, on va dire de quelle pierre il s'agit aussi. Alors, en particulier, il y a sur l'un des vêtements du Kohen Gadol, il y aura une surface, disons, dans laquelle sont incrustées des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, elles porteront les noms des 12 tribus. Il y a aussi les noms sur la partie avant de son vêtement et aussi sur les épaules. Donc, il y a une longue description de ces vêtements. Donc, des vêtements du Kohen Gadol et des vêtements des Kohanim ordinaires. Donc, ça nous amène beaucoup plus loin. Alors, on va se transporter à la 4e montée. C'est-à-dire au chapitre 29 au début du chapitre 29, Kaftet. Donc on leur fabrique des vêtements, vêtements qui sont Kodesh, qui sont les matériaux qu'on utilise pour ces vêtements, ils viennent de cette terouma, de ces prélèvements dont on a parlé dans la paracha la semaine dernière. Et puis pour les installer comme Kohanim, il ne suffit pas de leur donner des vêtements. Et comme dit le pasouk, « Zéa davar, asher ta'aseh lahem, le kadesh otam, le ra'en li. » Voilà ce que tu vas faire, tu vas leur faire pour les sanctifier, pour qu'ils puissent me servir. Tu vas prendre Har Echad ben Bakar, un taureau, Ve Elim Shnaim Tmimim, et deux béliers, toujours entiers, donc parfaits, sans défaut. Et aussi Lechem Matzot, Vechalot Matzot, Lulot Bashamen, ouais, Lulot Bashamen ici, ou Kike Matzot Meshuchim Bashamen, ici Bashamen d'ailleurs, Solet Chitim Taseotan. Donc avec une farine de blé, tu feras toutes sortes de crêpes. Matzot, lechem, rekikim, c'est des sortes de différentes de crêpes, différentes, plus ou moins sèches, plus ou moins huileuses, etc. Tu vas approcher tout ça avec le Kohen Gadol et ses fils, ils vont se tremper, ils vont s'immerger, se purifier. Et à ce moment-là, tu prendras les vêtements et tu en revêtiras Aaron. Et puis tu vas aussi prendre Shemen Amishra, tu vas prendre de l'huile d'onction, tu vas verser sur sa tête, et tu vas l'étaler en forme de la lettre Ki Y. Et ensuite, tu vas faire la même chose avec les fils d'Aaron. Donc, on va approcher les korbanot dont qu'on a cité ici. On va faire la shrita smicha, s'appuyer dessus, on va faire la shrita. Ensuite, il y a la procédure de, on fait avec les korbanot. Ensuite, tu vas prendre les deux béliers. Procédure de nouveau, smicha. Shrita, etc. Et on dit que cette procédure, ça deviendra la procédure pour Aaron et ses fils. Ce sera une règle éternelle, valable pour les Bnei Israël en permanence, parce que c'est fait à partir de la Terouma. Il y aura toujours qu'il y ait une trouma. Ensuite, un prélèvement. Et il y aura un prélèvement que feront les Bnei Israël quand ils apporteront des korbanot. Qu'est-ce qu'on fera avec ce prélèvement? A priori, c'est des choses qui vont être données au Kohanim. Donc, il va y avoir une semaine d'inauguration. Le Kohen Gadol, à ce moment-là, ce sera Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce qu'il passe le relais à Aaron. Mais lui, Moshe, il n'aura pas besoin de vêtements d'apparat. Et du coup, on doit se demander Pourquoi faut-il des tels vêtements? Ce n'est pas impératif puisque mon cher Abbé n'en a pas besoin. Alors le Mfarchim m'explique que les vêtements, c'est quasiment sont des vêtements royaux. Il faut que le peuple voie que les Kohanim servent le roi. Et donc il faut que ça, qu'il y ait une certaine splendeur obligatoire. Ensuite, on va aussi sanctifier le Mishkan, la tente. Et Hachem dit, Veshachanti betoch bnei Israël. À ce moment-là, je résiderai vraiment au sein des bnei Israël. Va'eti lahem l'Elohim. Et je serai leur Elohim. Ve'yadou. Ils sauront. Qui ani Hashem Elokehem, Asher oseti otam, me'eretz Mitzrayim le shochni betocham, ani Hashem Elokehem. Ils sauront les Bnei Israël que moi, Hashem, leur Dieu, je suis celui qui les ai sortis d'Égypte pour résider parmi eux. Moi, Hashem, leur Dieu. Vous voyez, ici, on a longuement parlé de l'installation, des vêtements, etc., d'Aaron, de tous les Kohanim. Mais pour revenir à ce dont on parlait au début, après les premiers mots dont on a dit quelque chose, le fameux Léafo, le Vatat et Tzavé, toi, tu vas ordonner au Bnei Israël et ils vont amener l'huile. L'huile, il y a l'huile pour l'allumage de la menorah et il y a l'huile d'onction et il y a l'huile qui est nécessaire pour fabriquer les crêpes. Alors ici, il s'agissait au début de la paracha que les Bnei Israël reçoivent l'ordre d'amener à Moshe Rabbeinu de l'huile d'olive, sans scorie, évidemment, qui était dans cette huile qui était pressée pour produire donc le combustible des nérotes de la menorah. Et cet allumage des nérotes de la menorah, des sept nérotes de la menorah, et c'est marqué dans le pasouk Tamid. La lot ner tamid. Tamid, ça veut dire toujours, permanent. Alors ici, il y a une nouveauté, c'est qu'on va dire ner tamid, mais la menorah, les lumières sur la menorah ne vont pas brûler tout le temps. Tous les soirs, Aaron va venir et il va nettoyer tous les restes de la combustion de la journée précédente. Nettoyer, il va remettre de l'huile combustible et des mèches fraîches vers le soir et on va allumer. Et ça va brûler jusqu'au lendemain matin. Alors, comment on se débrouille avec le tamid là? C'est pas tamid, dans le pasouk, c'est écrit tamid. Alors, on va expliquer que c'est suffisamment tamid, si vous voulez, comme dit Rashi, tamid, ça veut dire kol laïla ve laïla. Karoui tamid. De même, le korban qu'on apporte en deux parties tous les jours aussi s'appelle aussi korban tamid. Donc la moitié vient le matin et l'autre moitié en après-midi. Donc à l'ouverture du Mishkan, il y a la fermeture du Mishkan. Le Mishkan est fermé pour la nuit. Hein. À ce moment-là, on apporte un korban qui s'appelle Tamid. Et lui non plus, il n'est pas Tamid, on apprend. Alors, on apprend de là que quand on fait quelque chose tous les jours, ça s'appelle Tamid. Toujours, ça peut être tous les jours. Et c'est tous les jours. Mais pas, c'est pas un toujours qui veut dire en permanence, mais tous les jours. On a vu, je vous ai dit, dans Parshat Truma, on a mis en place quasiment tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Il manque le Mizbeach HaKtoret, dont on parlera plus tard. Mais en fait, on a les psukim qui parlent de la tente elle-même, du Mishkan lui-même, et des trois grands éléments du mobilier, c'est-à-dire le Aaron, qui est dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel on mettra les Luchot, et aussi un Sefer Torah d'ailleurs, et aussi les brisures des premières Luchot. D'un côté du... Ensuite, il y a, ça c'est le Kodesh HaKodashim, qui est séparé du Kodesh par un rideau, qu'on a parlé la semaine dernière. Et de l'autre côté, au sud, il y a la menorah, et au nord, il y a le shulchan, la table. Table sur laquelle il y aura les fameux pains. On verra. Il y a des pains qui sont là, qui eux sont effectivement en permanence sur la table en question. Il y a la menorah, et tous les soirs, on vient, le Kohen Gadol, Aaron va venir, il va nettoyer et rallumer la menorah. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ce morceau-là, où on dit qu'il faut amener le matériau de... Le matériau, c'est-à-dire l'huile, comme le combustible de la menorah, on ne nous détaille pas ici l'allumage. Ça, ce sera de Be'alotra. En parchat de Be'alotra, on aura le détail de l'allumage. Et puisque ce n'est pas détaillé, et puisqu'il s'agit du matériau, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis ensemble avec le reste? Mais pourquoi est-ce que c'est placé ici comme entre les matériaux et le récit de l'usage de ces matériaux dans la construction du Mishkan, et les matériaux et l'usage de ces matériaux dans la fabrication des vêtements du Kohen Gadol et de Kohanim? Et au milieu, il y a donc cette paracha de la menorah, de matériaux qui va permettre d'allumer la menorah. Donc, visiblement, elle a un statut à part. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, la menorah qu'on va allumer tous les jours, elle n'est pas du tout fonctionnelle. D'abord parce que, évidemment, que la résidence d'Hachem n'a pas besoin de lumière. Il y a un système de lumière qui ne vient pas de la menorah. Donc la menorah, elle est un peu comme la menorah de Hanouka. Là-bas, on allume aussi uniquement pour regarder brûler les nérotes, mais pas du tout pour des raisons fonctionnelles. Puisque pour bien montrer que ce n'est pas fonctionnel, on allume le shamash. Montrer que voilà, on a de la lumière par ailleurs. On n'utilise pas la lumière des nérotes de Hanouka. Ici non plus, on n'utilise pas vraiment la lumière des nérotes. Et néanmoins, il y a des midrashim qui disent que Hachem a demandé au Bnei Israël de éclairer moi en quelque sorte. Je vous ai éclairé tout le temps dans le désert. Maintenant, éclairez-moi dans ma résidence. Pas que j'ai besoin de ça, mais quelque part, je vais vous faire faire quelque chose pour diminuer la charge d'avoir reçu dans le désert, d'avoir été éclairé par les fameuses nuées de feu qui éclairaient les Bnei Israël durant la nuit aussi. Quelque part, on a reçu et on n'a rien donné pour. Alors du coup, Akadosh Baruch Hu, par le biais de la menorah, il nous donne quelque chose qui peut apparaître comme une espèce de donnant-donnant. Tu nous as donné, nous on te donne. Tu nous as éclairé, nous t'éclairons. Bien qu'évidemment, je n'ai nul besoin de cet éclairage. Et donc la menorah, elle est intermédiaire entre le Mishkan, c'est-à-dire la construction du Mishkan, avec le Mishkan, une fois qu'il est construit, tout reste à faire en quelque sorte. Donc le Mishkan, il fait rien, il est là. Dans les Begadim, sont les vêtements des Kohanim. C'est les vêtements que les Kohanim portent quand ils agissent dans le Beth Amikdash, ou ici en l'occurrence dans le Mishkan. Ils ont des vêtements qui sont fondamentaux, parce que la halakha, elle est qu'un Kohen sans ses vêtements, qui ferait la avoda sans ses vêtements, il serait considéré comme un zar, comme un étranger, comme un non-Kohen. C'est ce qu'on dit, Kohanim bigdehem aleihem, que unatam aleihem. Les Kohanim, si leurs vêtements sont sur eux, alors leur keuna est là, ils sont vraiment Kohanim. Ein bigdehem aleihem, sans leurs vêtements de Kohanim, même s'ils ont des vêtements prestigieux, tout ce que vous voulez, et tant qu'ils n'ont pas mis leurs vêtements de Kohanim, ils ne sont pas considérés comme Kohanim. Au sens où, pour la avoda, on a besoin de Kohanim. Là, on a besoin de Kohanim, alors des Kohanim sans vêtements, ça ne marche pas. Là, pour le coup, c'est vraiment l'habit qui fait le Kohen. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est parce qu'un non-Kohen qui met l'habit de Kohen, il ne devient pas Kohen pour autant. S'il fait l'avoda, ce sera quand même une avoda faite par un étranger, par un non-Kohen. Donc, la menorah, c'est un peu intermédiaire. Il faut faire quelque chose. Quelque chose qui ne sert pas vraiment, mais il faut faire quelque chose. Et les vêtements, comme je vous ai dit, les vêtements, ils sont dans le mouvement des Kohanim, dans l'action des Kohanim. Et la Gemara, elle explique que les gadim des Kohanim, les vêtements des Kohanim, non seulement ils sont des vêtements, mais ils ont aussi une fonction. Ces vêtements-là sont portés en tout cas s'ils sont portés, alors ils apportent ce qu'on appelle la capara. La capara, c'est l'opération par laquelle on lave la faute de celui qui a fait la faute. Alors, les différents vêtements, aussi en fonction de la partie du corps que ces vêtements habillent, en fait. Alors, ils apportent la capara pour certaines choses, et, bon, certaines fautes. La capara, elle vient de telle ou telle pièce du vêtement des Kohanim, etc. Alors, il y a des vêtements qui n'agissent que quand ils sont portés. Il y a toute une discussion dans la Gemara parce que un des vêtements du Kohen Gadol, c'est celui qu'on appelle le tzitz. Le tzitz, c'est un espèce de bandeau sur lequel est écrit l'Hachem, Kodesh, ça veut dire Kodesh l'Hachem, et il s'est attaché avec des lanières. La Gemara, elle se demande, est-ce que ce vêtement-là, il apporte, qui apporte une capara, est-ce qu'il apporte la capara seulement quand il est porté par le Kohen Gadol, ou bien est-ce que même lorsqu'il est pendu à son clou, là, il est déjà efficace? Le tzitz, il est meratsé, c'est-à-dire il obtient l'agrément pour les korbanot qu'on amène. Dans la prière, dans la tfila, on demande après les demandes elles-mêmes, on demande à Hashem, Shema Koleinu, écoute notre voix. Et puis on demande retse, agrée notre prière. On prie. D'abord, on demande à Hachem de nous aider à prier, nous aider à parler, à exprimer les mots de la prière. Et une fois qu'on a fait la prière, tel qu'Hachem nous a aidés, alors on demande à Hachem d'agréer nos demandes. Il y a donc une bénédiction spécifique pour obtenir l'agrément. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas suffisant, pardon, de faire ce qu'Hachem a demandé. Hachem nous a demandé de faire des choses, on les a faites, ça ne suffit pas. Il faut aussi obtenir l'agrément. Il faut lui demander qu'Hachem veuille bien agréer notre prière. Le tzitz, il avait cette fonction-là. Le tzitz, le fameux bandeau là, que portait le Kohen Gadol, sur lequel c'est marqué. C'est marqué l'Hachem Kodesh, mais il y a toute une histoire. On ne voulait pas que le nom divin soit écrit en dessous. Donc, il faut écrire l'Hachem Kodesh. Alors, est-ce qu'on doit écrire l'Hachem et Kodesh à côté? Bien l'Hachem, et puis en dessous, Kodesh. Tout ça, c'est une discussion dans la Gemara. Donc, il y a un des vêtements qui c'est comme s'il surplombait le tout et qui demande à Hachem agréer tout ce qui est demandé avec. Ce qui est demandé avec les autres vêtements. On dirait, mais si les vêtements à eux seuls obtiennent l'accapara parce qu'on a besoin d'apporter les corbanotes. On devrait simplement se présenter devant Hachem avec les vêtements ad hoc. Alors, ça, c'est la règle de la Torah. La Torah, elle veut toujours qu'on aille jusqu'au bout de la matérialisation, de l'inscription dans les corps, etc., des choses. Aujourd'hui, il y a plein. Aujourd'hui, tout ce qui relève de ce qui devait être fait au Beth Amikdash, pratiquement, ne peut pas être fait. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé dans cette direction-là? Il nous est demandé d'aller aussi loin que possible, c'est-à-dire d'étudier toutes les halakhot qui gouverneraient les gestes qu'on ferait dans telle ou telle circonstance, et aller jusqu'au moment où, voilà, maintenant, prends les choses en main, fais-le. Et à ce moment-là, on dit, je ne peux pas le faire, puisque il n'y a pas de Beth Amikdash, je ne peux pas apporter les corbanotes. Mais je suis au clair sur tout ce que j'avais à faire conformément à la halakha. Et je vais aussi loin que possible. Et par conséquent, je vais l'inscrire dans les gestes humains. Pas seulement dans la pensée, dans la parole, mais dans les gestes. Là où on peut faire les gestes, on doit les faire. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est ce que nous disons dans la prière de Moussaf. On demande à Hachem de nous aider parce que les circonstances ont fait que nous ne pouvons pas faire ce que tu voulais que nous fassions. Et nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller aussi loin que tu voulais que nous allions. Alors, on est allé aussi loin que possible dans la théorie, dans le travail sur les textes, sur la réflexion. Peut-être il faut les parler, ces textes. Mais on ne peut pas les réaliser. Mais à l'époque où on pouvait réaliser, on ne pouvait pas se contenter de faire ce que nous faisons aujourd'hui, puisqu'on pouvait aller plus loin. Ok, donc voilà la place de la menorah. Entre le descriptif du Mishkan et le descriptif et la réalisation des Megadim, c'est-à-dire on voit ici les hommes qui font les choses qui sont prescrites avec leurs vêtements. On va revenir sur ces vêtements. Les vêtements qui sont vers Sita Bigdei Kodesh l'Aaron Apicha, Bechavod Ultifaret. Alors, les commentaires sur ce Kavod ou Tifaret. Kavod, c'est un dévoilement dans la nature. On dit dans le Pasuk, Meloch la Haaretz Kvodo, que la gloire divine remplisse la terre. Ça veut dire que dans la nature aussi, on voit ce kavod. Tiferet, c'est un dévoilement au-dessus de la nature. ce soit par miracle, que ce soit par prophétie, ou bien dans l'étude de la Torah, il y a une Gemara qui dit « Tiferet sous matan Torah ». Le mot « Tiferet », qui est la splendeur par excellence, c'est le moment du don de la Torah. Ces deux dévoilements, un dévoilement au sein de la nature et un dévoilement au-dessus de la nature, dans le surnaturel, ces deux dévoilements-là existaient dans le Mikdash. Je vous avais dit la dernière fois que pour Ramban, le Mishkan, c'est d'une certaine manière la suite du Sinaï. Ça veut dire que dans le Mikdash, comme le Ramban le dit, je veux dire, le Mikdash, c'est la suite, ça veut dire c'est une espèce de Sinaï portatif. Pour Ramban, Hachem s'est dévoilé au Sinaï. De la même manière, ça veut dire il y a eu présence divine au Sinaï. De la même manière, dit Ramban, il y a présence divine dans le Mishkan. C'est ce côté-là, dévoilement de la présence divine. C'est-à-dire qu'il y a là cette notion de Tiferet qui dépassait complètement au Sinaï ce qui s'est dévoilé. C'est pas une présence divine qui se dévoile dans la nature. Ce qui s'est présenté, ce qui s'est dévoilé avec ce fameux son et lumière, etc., c'était pas dans la nature. C'était largement au-dessus de la nature. Mais il y avait quand même cette notion de kavod, c'est-à-dire le dévoilement à l'intérieur de la nature, parce que la nature était libre de toute faute, en quelque sorte. Et pourquoi ? Parce que chacun des ustensiles, des éléments dans le Mikdash, dans le Mishkan, donc, était à sa place, c'est-à-dire il apportait la kapara qu'il peut apporter. Et donc, dans la nature, il n'y avait plus de traces de la faute, des fautes. Les fautes étaient, en quelque sorte, réparées grâce à la présence divine sur terre, c'est-à-dire grâce au Mikdash. Grâce au Mishkan. Les kelim du Mikdash, comme les vêtements, tout dans le Mikdash, était fonctionnel. Tout dans le Mikdash, dans le Mishkan, ça les deux noms, servait à faire en sorte que dans le monde, il n'y ait plus de fautes, en fait. Marqué dans un des versets qu'on a déjà lu, on dit Olat tamid le dorotechem, petach oel moed, lifne Hashem, asher evaed lachem shama, et daber elecha sham. C'est-à-dire, il y aura une ola, c'est donc un korban, en français on dit holocauste, un korban entièrement consumé. Un korban entièrement consumé, ça veut dire, c'est un korban dont on va faire la shrita, on va dépecer l'animal, on va mettre toute la viande à brûler sur le misbéach. Ça, c'est une ola. Elle monte tout entière sous forme de fumée, quoi. Et puis, il y a d'autres korbanotes. Bon, la grande catégorie de ces korbanot s'appelle shelamim, qui veut dire shalem, à la fois complet, parfait. Shelamim, c'est les korbanot dont on fait la shrita. Et, par exemple, si c'est un animal, on va prélever une partie et certaines graisses et prélever tout petit peu donc de la chair de l'animal, on va le mettre sur le misbéach et on va le griller entièrement, il va être brûlé. Et tout le reste de la viande, elle va être cuisinée, quoi, si vous voulez. La viande, elle va être mangée, dans certains cas par les kohanim, dans le cas où le korban qu'on avait amené, c'était un korban qui venait sur une faute, qui s'appelle un korban khatat. Alors, c'est les kohanim qui mangent de la viande. Et si c'est un autre korban, qui n'est pas un korban khatat, et qui est un korban shlamim, donc, la viande, elle est mangée par les propriétaires de la viande, propriétaires de la bête qu'on a approchée comme shlamim. Donc Hachem, dans le pasouk dit, on parle de Ola Tami le Dorotechem. La Ola qui sera approchée, le Korban Tamid dont je vous ai parlé, qui a été apporté moitié le matin, moitié en fin d'après-midi. Voilà. Ce Korban-là, il s'appelait Tamid, parce qu'on l'amenait tous les jours. On l'amenait donc Petach Oel Moed, on l'amenait à la porte du Mishkan, Lifne Hashem, donc c'était donc devant Hashem, Asher Avaed Lecha Lachem Shama, où Hashem dit, j'aurai avec vous un rendez-vous, un Vaad, là-bas, les daber elecha, pour te parler là-bas. Alors, Rashi dit, sur Asher Avaed Lachem, avec lequel j'aurai un rendez-vous avec vous, Rashi dit, Keshe ekva moed, les daber elecha, sham. Sham ekvenu lavo. C'est-à-dire, c'est Hachem qui parle. Lorsque j'aurai décidé d'un moment où je veux te parler, c'est là-bas que je te rencontrerai te parler. Veyesh merabotenu, mais il y a certains de nos maîtres qui disent, le Medim Mikan, Shemeal Mizbech Anochoshet, היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה כשהוא קם המשכן. Certains disent que quand Hachem voulait parler avec Moshe, la voix que Moshe recevait, entendait, c'est une voix qui semblait provenir de l'autel de cuivre, c'est-à-dire l'autel qui est pas, l'autel qui est à l'extérieur, qui est dans le Khatser, celui dont on parle au début de la paracha. Donc c'est de là qu'Hachem parle. C'est une opinion. Il y a une autre opinion, Yeshomrim, Balakaporet, celle qui est peut-être la plus connue, c'est que Hachem va parler à Moshe Rabbeinu, et la voix, elle semblera provenir du Kaporet, c'est-à-dire du couvercle du Aaron. Et la voix, plus précisément, elle proviendra d'entre les deux chérubins. Il y a deux krouvim, et la voix, elle a l'air de venir entre les deux krouvim. Et donc, ici, on parle d'endroits fixés pour le rendez-vous avec Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, fixer un endroit pour le rendez-vous? C'est pas pour dire que cet endroit-là, positivement, il est le bon endroit où Hachem peut parler. Mais ça veut dire que c'est un endroit où on va enlever les barrières qui nous empêchent d'entrer en communication avec Hachem. C'est pas l'endroit qui fabrique, qui donne du pouvoir. Il y a rendez-vous, ça veut dire là-bas on enlèvera les barrières. Donc l'idée de base de la notion de guilouï, de dévoilement, c'est de dire qu'il n'y a de dévoilement que quand c'est un endroit où on s'est mitbatel, où on s'annule devant Hachem. C'est pour ça que certains disent que c'est le Mizbeach, le fameux autel de cuivre, donc. Pourquoi? Parce que c'était à cet endroit-là qu'on brûle les graisses et les entrailles qui sont le fondement de la notion de korban. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'idée, qu'est-ce que ça veut dire brûler les graisses? Brûler les graisses, c'est-à-dire faire disparaître les graisses. Or, vous savez que quand on apporte un corban, en tout cas un corban privé, on s'appuyait sur la tête de l'animal de tout son poids pour en quelque sorte l'investir de moi-même, faire en sorte qu'il puisse me représenter. L'animal me représente, je l'ai chargé de me représenter. Donc je le charge en m'appuyant sur lui. Et donc, dire que on brûle une partie de cet animal, c'est-à-dire on me brûle, on brûle, on doit s'imaginer, voilà, je disparais. Je suis en train de disparaître. Bon, alors, comme les sacrifices humains sont interdits, c'est pas moi qui disparais, c'est d'une certaine manière l'animal qui disparaît, et là, c'est symbolique, puisque ce n'est qu'une partie de lui-même qui disparaît, le reste va disparaître, éventuellement en étant mangé. Ou alors il s'agit d'une ola qui est entièrement consumée. Du coup, tout disparaît, c'est clair. Ça n'a pas besoin de symbolique, c'est la réalité. L'animal, dans son entièreté, en fait, disparaît. Et donc, quelque part, il me représente, disparaissant, il me représente, m'annulant complètement devant Hachem. J'ai conscience que devant Hachem, la seule posture acceptable, c'est de s'annuler devant lui. Donc, c'est pour ça que certains disent, ben, la voie, rendez-vous, il est quand? Il est là où je peux m'annuler, où je m'annule, c'est-à-dire sur le misbéach. Si maintenant on parle d'une voix qui vient du Kaporet, je vous rappelle, le Kaporet, c'est donc le couvercle de Aaron HaKodesh, de Aaron qui contient, etc. Mais où est-ce qu'il est situé? Il est situé dans le Kodesh HaKodashim. Le Aaron, il est dans le Kodesh HaKodashim. Donc, à cet endroit-là, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a plus de notion de matérialité. Le matériel n'existe pas. On est tout dans la spiritualité là-bas. Donc c'est pour ça, pour dire, voilà, c'est... Là-bas, c'est effectivement l'idée de la disparition complète de toute gashmiut, de toute dimension matérielle, corporelle. Et d'après ça, on peut comprendre le Midrash. Il y a un Midrash que Rashi rapporte un peu plus bas. Rashi dit, Altikri bichvodi. Ne lis pas dans mon kavod, mais lis bimchubadai pour ceux qui me donnent du kavod. Le abayit, donc le Beit HaMikdash, le Mishkan, il a été sanctifié. Il a été sanctifié par la mort de Nadav et Avihu. Donc, ils ont disparu. Dans le cadre de la manifestation de Dieu. Donc leur disparition c'est une façon pour Hachem d'être glorifié en quelque sorte. Mon kavod, comment ça se passe? C'est par la disparition de ceux qui font que j'ai du kavod. Comment Moshe Rabbeinu a raconté à Aaron, il lui a dit, je savais, Hachem m'avait dit, quand il m'a annoncé qu'on allait construire le Mishkan, etc. Et Hachem m'avait dit que je serais sanctifié par ceux qui me sont le plus proches. Et je te dis la vérité, j'ai pensé que c'était toi et moi. Que Hachem allait être sanctifié par notre disparition. Et comme tu vois, c'est Nadav et Avihu, et pas nous. Ça veut dire qu'une certaine manière, ils étaient plus proches d'Hachem que nous. Cher Rabbeinu qui dit à Aaron, tes fils qui ont disparu là, ils étaient plus proches d'Hachem que nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Moshe avait compris là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va être sanctifié au moment où on va inaugurer sa résidence Il va être sanctifié par quoi? Par la mort de ceux qui sont le plus proches. Je crois que l'idée, c'est la suivante. J'ai déjà exprimé ça. Et je pense que c'est important. Kadosh, c'est séparé. La Kedusha, c'est être séparé d'eux. Par conséquent, quand on dit que Hachem est super Kadosh, ça veut dire qu'il est très séparé de nous. Donc, si vous voulez prendre conscience que Hachem est Kadosh, c'est prendre conscience de la hauteur divine. Alors le problème, c'est que les Bnei Israël, à partir du moment où ils sortent d'Égypte, à partir du moment où, par exemple, ils vont dire à Hachem, nous, on préfère que ce soit Moshe qui parle et pas toi. Moshe qui nous parle et pas toi. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire, tu es tellement haut qu'on est complètement écrasé. C'est insupportable. On préfère que ce soit Moshe. Donc ça veut dire que Moshe, quand il se place entre les Bnei Israël et Hachem, il réduit la hauteur. Les Bnei Israël n'expérimentent pas la hauteur divine. Eux, ils ne connaissent que la hauteur de Moshe. Donc il arrive. Mets-toi, toi, entre Moshe, entre Hachem et nous. Ça veut dire, c'est comme si on disait dans une pièce très haute de plafond, on va faire un faux plafond. Donc les gens qui sont dans la pièce, ils n'expérimentent plus la vraie hauteur de plafond. Ils n'expérimentent que la hauteur du faux plafond. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Moshe et Aaron, ils empêchent le clan d'Israël de percevoir la vraie hauteur d'Hachem. C'est les Bnei Israël qui ont demandé cela, mais de facto, c'est eux qui empêchent de prendre la vraie hauteur. Et donc, Moshe Rabbeinu a pensé que maintenant qu'Hachem va résider dans le clan d'Israël, les Bnei Israël sont maintenant à la hauteur d'expérimenter la vraie hauteur d'Hachem. Et pour ce faire, il faut que nous ne soyons plus là. Parce que nous, on les empêche d'expérimenter cette vraie hauteur, puisque c'est nous leur horizon. C'est nous le plafond. Si nous on disparaît, alors la kedusha qu'ils vont expérimenter va devenir bien plus grande. Ça, c'était le raisonnement de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il avait compris qu'un Hachem lui a dit Bikrovai Akadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas comme ça que ça s'est fait. La Kedusha, Hachem, elle s'est manifestée par la disparition complète de ceux qui voulaient être à la place de Moshe et d'Aaron. Et pourquoi est-ce que c'est mieux que ce soit ça, comme ça que ça se passe? C'est que Moshe et Aaron, ils sont le faux plafond nécessaire quand le clan Israël est très jeune. Le clan d'Israël ne supporte pas le dévoilement de toute la hauteur. Donc, quelque part, Moshe et Aaron, qui sont les artisans de la sortie d'Égypte, qui ont porté le clan d'Israël à bout de bras, si vous voulez, pour le faire sortir d'Égypte. Ils sont là comme on porte un bébé. Et quand le clan d'Israël aura grandi, on ne va plus les porter comme ça. Donc, Moshe et Aaron, leur rôle allait de toute façon se terminer un moment ou un autre. Quand les Bnei Israël seront majeurs. Mais quelle était la faute de Nadab et Abihu? Le Midrash dit que Nadab et Abihu marchaient derrière Moshe et Aaron et disaient: quand est-ce que ces deux vieux-là vont laisser la place pour que nous guidions le clan d'Israël? Bien entendu, il ne s'agit pas d'un petit calcul de jalousie ou de, je sais pas, de bon pour le prendre. L'idée de Nadab et Abihu, on la voit dans la façon dont ils ont fauté en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachem a dit, enfin, ce projet divin, c'était qu'à l'inauguration du Mishkan, on a toujours besoin de feu. D'accord, il faut du feu pour griller, il faut du feu pour allumer, il faut du feu pour éclairer, il faut du feu de toutes sortes. En particulier, il faut le feu pour griller les corbanotes. Que ce soit des holotes qu'il faut complètement consumer, que ce soit des parties de shlamim, il faudra aussi consumer, il faut du feu. Hachem avait décidé qu'à l'inauguration, pour qu'on n'oublie pas exactement ce que c'est que la résidence d'Hachem, qu'en fait la résidence d'Hachem, il n'y a qu'Hachem qui puisse se la faire, la construire. Alors Hachem avait décidé que ce jour-là, le feu viendrait du ciel. Ce ne seraient pas les hommes qui allaient allumer ce feu qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement du Mishkan, mais que ce feu allait venir du ciel. Mais Nadab et Abihu ne voulaient pas ça. Nadab et Abihu, quand ils sont derrière Moshe et Aaron, et qui demandent quand est-ce qu'ils vont passer, c'est pas qu'ils veulent prendre leur place en tant que tels. Seulement, ils sont en train de dire, quand est-ce que Moshe et Aaron vont disparaître? C'est-à-dire, quand est-ce que nous, clan d'Israël, on arrivera enfin à être autonome, c'est-à-dire arrivé à notre maturité, arrivé à la vitesse de croisière, en quelque sorte. C'est ça qu'ils voulaient faire disparaître. Eux, ils pensaient, nous sommes à la hauteur pour vivre avec la vitesse de croisière. Et par conséquent, on va amener le Ktoret qu'on doit amener à l'inauguration, on va l'amener comme on l'amènera dans le futur, c'est-à-dire après l'inauguration, comment est-ce qu'on faisait? On allumait à l'extérieur, et quand le nuage odorant de l'encens qui brûle, commençait à se dégager, à ce moment-là, on l'entrait, on l'approchait d'Hachem, en quelque sorte, si vous parlez comme ça. Alors eux, ils ont dit, nous, on va amener le feu, parce que c'est comme ça qu'on va faire, tout de suite après la période de démarrage du Mishkan. Ça veut dire on n'a plus besoin de l'aide de Moshe Aaron, on est sorti de l'enfance. Donc on n'a plus besoin que C'est terminé la phase de démarrage. On n'en a plus besoin. On peut passer tout de suite à la vitesse de croisière. En quoi ils se trompaient? Et du coup, quand ils ont disparu, pourquoi c'était plus grave? Parce que eux, ils pensaient qu'ils allaient diriger le peuple dans la vitesse de croisière, c'était pour toujours. Que bon, chez Aaron, ils allaient diriger le clan Israël dans la période de démarrage. Et dès que le clan Israël serait un peu autonome, exit Moshe et Aaron. Mais, ils pensaient, on a toujours besoin de dirigeants. Nous sommes capables d'être les dirigeants. Et nous sommes capables d'être les dirigeants pour la vitesse de croisière, c'est-à-dire pour toujours. Donc, quelque part, ces gens-là, ils allaient empêcher le clan d'Israël à tout jamais de percevoir la hauteur divine. Et donc, ça veut dire, eux, ils étaient plus proches au sens, ils s'installaient définitivement proches d'Hachem. Alors que Moshe et Aaron, c'était provisoire. Ça, c'était l'erreur de Nadav et Abihu. Mais c'est pour ça qu'on peut parler d'une kedusha d'Hachem par la disparition de Nadav et Abihu. Parce que grâce à cette disparition, on a compris ce qu'était la kedusha, on a pu expérimenter la hauteur divine. Alors comment concrètement ça s'est fait? Par l'annulation de... Bien montrer que il faut annuler complètement Nadav et Abihu pour percevoir la hauteur divine. C'est pas remplacer Moshe et Aaron par Nadav et Abihu, sauf que ça va durer éternellement. Ça marche pas. Si on dit cela, d'une certaine manière, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas besoin du tout de gens comme Nadav et Abihu en vitesse de croisière. Ou si vous préférez, le clan Israël, il sera un enfant jusqu'à la réussite de l'histoire, et après il passera directement dans Olam Haba. Donc, on n'aura pas besoin d'une phase intermédiaire qui serait de... Bon, ça, je ne sais pas comment c'est. On peut envisager ça. On n'a pas besoin de Nadav et Abihu, d'un Nadav et Abihu à quel que soit le niveau où ça se passe. Si on dit ça, ça veut dire que quelque part, on n'a pas besoin d'un roi au sens d'égoïme. On a besoin de gens qui nous disent ce qu'il faut faire quand on ne saura pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire des espèces, comme on dit, que Moshe était roi, parce que il n'avait pas de cour ni cette histoire. Simplement, il était le chef. Yoshua est le chef, il n'a pas de cour non plus. Et Shmuel est le chef, il n'a pas de cour non plus. Et ils sont rois, au sens. Mais d'une royauté qui n'a pas tout le mauvais côté de la royauté. Simplement, ce sont des rois au service du peuple et pas un peuple au service du roi. C'est la singularité d'Israël. Donc, c'est jamais des rois qui cherchent leurs intérêts. Parce qu'ils doivent être au service du clan Israël. Et donc, il faut qu'ils s'effacent complètement. C'est ça le paradoxe. Tu es roi, mais tu ne peux pas vraiment te manifester comme roi. Dans le Rambam, les chapitres concernant la royauté, ils s'appellent les lois des rois et de leur guerre. Parce qu'une des manifestations fondamentales de la royauté, c'est d'être celui qui fait la guerre. Or là, dans ce domaine-là, justement, tout le problème est le roi va devoir faire la guerre, mais reconnaître que ce n'est pas lui qui la gagne. Quand il gagne la guerre, il doit dire, moi j'y suis pour rien, c'est Hachem qui a fait la guerre. Hachem qui a gagné la guerre. C'est ce que faisait David Amel. Et le roi Chizkiyahou, qui était presque Mashiach. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu Mashiach? Parce qu'il a gagné la guerre et il était incapable de reconnaître que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Et ceci, malgré le fait que la guerre qu'il a gagnée, Chizkiyahou, elle s'est gagnée pendant que Chizkiyahou et tous les Juifs, les Hébreux, tous les soldats, tout le monde dormait. Visiblement, ce n'est pas eux qui ont gagné la guerre. C'est Hachem qui a fait en sorte que les ennemis ont pris peur, etc. Ils ont cru entendre des bruits, etc. Ils sont partis. Ils ont laissé tout le butin. Et donc, la guerre, il l'a gagnée. Était réputé, c'est le roi qui a gagné la guerre, mais lui, il fallait qu'il reconnaisse que ce n'est pas lui qui avait gagné la guerre, mais Hachem. La raison pour laquelle il n'est pas devenu Mashiach, parce qu'il n'en a pas été capable. Il s'est attribué à un raisonnement assez tordu, mais c'est un raisonnement possible. Il s'est attribué le mérite d'avoir gagné la guerre. Bien sûr, elle s'est gagnée pendant leur sommeil et tout. C'est grâce à son mérite. Et ça fait qu'il n'est pas devenu Mashiach. C'est le grand problème du Mashiach, ce sera. Tu vas être roi, mais tu n'as pas le droit de te conduire en roi au sens habituel du terme. Les gens vont te donner du kavod, c'est tout ce que tu veux, ça, oui. Mais ce qui est la spécificité du roi, c'était de faire la guerre. Quand tu fais la guerre, quand tu gagnes la guerre, tu dois dire, c'est pas moi qui ai gagné la guerre, c'est Hachem qui a gagné la guerre. Tu n'es pas capable, tu ne seras pas Mashiach. Et ça, le grand problème. Parce que Chizkiyahou, il était presque Mashiach. Toutes les autres conditions étaient satisfaites. Sauf celle-là. Donc, sachez que si vous voulez être le Mashiach, il faut travailler sur la modestie et reconnaître que même quand vous faites les choses, quand vous avez fait une table magnifique, quand vous avez fait, je ne sais pas quoi, une conférence magnifique, qu'on a fait, ok, très très bien, mais c'est Hachem qui l'a fait. Si vous n'êtes pas capable, alors, ne vous inscrivez pas comme candidate Mashiach, ça ne va pas marcher. Je me le dis à moi-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Vous avez le droit de rêver. Vous avez tout à fait le droit de rêver. Vous êtes le Mashiach.
Shabbos.